aujourd'hui poser le problème de la transition de l'esclavagisme au féodalisme. C'est un problème général, avec possible exemple, ou possible même en catalan. Ce problème de la transition de l'esclavagisme au féodalisme est un problème qui est très à l'ordre du jour, puisqu'un certain nombre d'ouvrages ont paru assez récemment sur ce sujet. Vous verrez par exemple le livre de Perry Anderson, vous le connaissez bien. Je citerai le livre de Tocqueville, vous le connaissez, Pierre de Caisse, La littérature médiévale. Hein? Et en dernier lieu, bien sûr, le livre de Babé, consacré plus spécialement à la péninsule ibérique. Alors, en dehors de ces livres, tous sont d'inspiration marxiste. Comment, me semble-t-il, se déclarent marxistes. En dehors de ces livres, ont paru également toute une série d'articles, particulièrement dans la revue française La Pensée, en 1977, et en particulier des articles d'historiens soviétiques. Je citerai Madame Moulatsova, Madame Goudnova, Madame Sidorova, ainsi que Sterman. Et également apparu un recueil alors en espagnol de l'esclavisme al féodalisme sous la direction du professeur Prieto. L'intérêt de ces livres est évidemment de poser un problème fondamental, celui du passage d'un mode de production à un autre mode de production, celui du passage d'un type de société à un autre type de société. Je dirais que leur défaut, à mon sens, c'est d'en rester à une vision très traditionnelle de l'histoire, je dirais même à une vision très traditionnaliste. Si l'on accepte le livre de Pierre Docquès, qui lui est vraiment novateur, et même parfois provocateur, on peut dire que ces livres n'ont vraiment rien de très marxiste, avec le féodalisme. C'est en quelque sorte nier la persistance des structures antiques dans l'Europe du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, et en particulier nier la persistance du régime esclavagiste dans l'Europe du Haut Moyen-Âge. Alors ces défauts sont d'autant plus étonnants qu'on ne trouve, rien de semblable dans les écrits de Marx et d'Engels, d'ailleurs très brefs et très généraux, qui sont relatifs à la question. Alors je crois qu'il faut abandonner tout a priori, essayer de voir la réalité telle qu'elle est, telle du moins que la présentent les recherches les plus récentes, et en particulier les monographies régionales. Alors avec vous, je voudrais examiner trois points principaux. Le premier, c'est celui de la survie de l'esclavage au cours du Haut Moyen-Âge. Et donc c'est le point qui est le plus controversé, c'est celui sur lequel je m'étendrai peut-être le plus. Ensuite, j'essaierai d'examiner les causes de la mutation sociale, causes qui sont à mon avis à rechercher dans un développement des forces productives, développement dont, à mon sens, le moteur essentiel a été le travail paysan, ce qui m'amènera à parler dans une deuxième partie de la paysannerie libre et de son rôle dans le développement des forces productives. Et enfin, je terminerai en essayant de décrire les modalités de la disparition du régime esclavagiste et de l'instauration du mode de production féodal. Donc, premier point, la survie de l'esclavage dans l'Europe du très haut Moyen-Âge, c'est-à-dire dans l'Europe des 5e, 9e siècles. Ça va, je parle pas trop vite, vous me suivez? Ça va? voisinage m'apparaît comme une évidence. Je prends un exemple, celui de l'Espagne, qui est bien éclairé par les lois visigothiques, par toutes les lois promulguées par les lois de Tolède depuis l'origine jusqu'à Égypte. J'ai fait un petit décompte sur 498 textes de loi qui nous sont parvenus, 229, c'est-à-dire près de la moitié, se réfèrent directement à l'esclavage ou contiennent des allusions ou des clauses relatives à l'esclavage. C'est donc souligner l'importance du phénomène d'après la législation. Et on retrouve à peu près la même proportion dans les autres lois barbares. Que l'on prenne la loi salique, la loi des Burgondes, que l'on prenne les lois lombardes, que l'on prenne même une loi aussi tardive que le capitulaire additionnel à la loi salique, qui a été publié sous Charlemagne en 803, eh bien nous trouvons encore des lois, des clauses relatives à l'esclavage. Alors, même chose par ailleurs dans les autres types de sources. Même chose dans les actes des conciles, même chose dans les textes narratifs, même chose dans les formulaires. Je pense bien sûr aux formulaires gaulois, comme le formulaire de Marcul, mais je pense aussi aux formulaires visigothiques. Et même chose encore dans les pénitentiels, c'est-à-dire ces ouvrages qui contenaient des recueils de pénitence pour un peu tous les péchés. Nous avons un pénitentiel espagnol qui est le pénitentiel de Mirila, et lui aussi contient des mentions en ce sens. Alors deux problèmes se posent malgré tout. Premier problème, s'agit-il encore vraiment d'esclavage? Autrement dit, quelle est la condition des esclaves? Et deuxième problème, plus difficile à résoudre, quelle est l'importance de la population servile et quel est son rôle dans l'appareil de production? D'abord, la condition des esclaves. Bien, l'esclave reste un instrument de travail, ce qu'il était dans l'Antiquité. Il répond encore à la définition que donnait de lui Aristote, instrumentum vocale. Ou plus exactement, comme pendant le haut Moyen-Âge, les principaux instruments de travail, ce sont les bêtes, ce sont les bestiaux, l'esclave reste assimilé à une bête. Autrement dit, il reste situé dans une condition infra-humaine. Les textes qui rangent les esclaves parmi le cheptel, parmi le bétail, sont très nombreux. Je cite à titre d'exemple la loi salique. Dans la loi salique, on nous donne les indemnités qui sont à verser pour le vol d'un animal. Ça nous donne ceci, pour un porc, 15 sous, pour un bœuf, une vache ou un esclave, 35 sous, pour un taureau ou un cheval, 45 sous. Par conséquent, dans l'échelle de l'animalité, l'esclave se situe entre le porc et le taureau. Et ensuite, le critère des relations sexuelles entre libres et esclaves et de leur prohibition. Le critère des châtiments est très important. C'est un des meilleurs critères, me semble-t-il, pour distinguer liberté et servitude. Vous savez qu'on a cherché des quantités de critères possibles pour définir la liberté dans les époques très anciennes. Moi, je trouve un critère très simple. Est libre celui que l'on ne peut pas battre, celui qui n'est pas battu par son maître. Alors, pour les esclaves, on trouve trois types de châtiments, si on se réfère aux lois. Les coups, les mutilations, la mort. Les coups. Eh bien, l'esclave est battu exactement comme un animal, et souvent plus qu'un animal. Le nombre de coups que les lois barbares prescrivent aux maîtres d'infliger à leurs esclaves fautifs est véritablement effrayant. Pour le moindre délit, des dizaines de coups. Quelquefois des centaines de coups. Dans la loi visigothique, 50 coups, 100 coups, et on monte jusqu'à 300 coups, 300 coups pour l'homme, et par faveur, 240 pour la femme. Des coups de quoi, me direz-vous? Bien justement, cette question-là n'a jamais été étudiée. comme si ça n'intéressait pas les historiens de savoir la manière dont étaient battus leurs ancêtres. La loi salique parle de coups de verge, en précisant que les verges doivent au moins avoir la grosseur du petit doigt. La loi burgonde parle de coups de bâton. La loi wisigothique, elle, parle de flagella, sans préciser. S'agit-il de coups de fouet? C'est possible, encore que je me demande comment on pourrait résister à 200 ou 300 coups de fouet. Ensuite, les mutilations. Pas n'importe quelle mutilation. Si on examine de près les textes, on s'aperçoit que ce sont des mutilations qui n'amputent pas la force de travail de l'esclave. Autrement dit, deux types de mutilations. Les mutilations faciales, et il s'agit de l'ablation du nez, par exemple, de l'ablation des oreilles, ou de ce que la loi wisigothique appelle la décaloatio. La décaloatio, qu'est-ce que c'est? Sans doute pas la tonsure simple, parce qu'on ne se tente pas de couper les cheveux. La loi précise dans certains textes que les cheveux seront arrachés. Par conséquent, il semble bien que ce soit une peine assez voisine du scalp. Et l'autre type de mutilation qui est assez fréquemment infligée, c'est la castration. La castration, qui a d'ailleurs son équivalent pour la femme, soit 240 coups de fouet, soit l'ablation du nez. Enfin, la mort. Le maître conserve le droit de vie et de mort sur ses esclaves. Et une seule loi supprime ce droit de vie et de mort, c'est justement la loi des Visigoths. C'est la loi des Visigoths qui le supprime, mais à une date tardive et après bien des hésitations. Il s'agit d'une loi de Kindaswent, la 6-5-12, mais cette loi est supprimée par Ejika, et elle est supprimée par Erwige, et elle est rétablie par Ejika. D'autre part, une autre loi dans le code wisigothique, la loi 6-5-13, nous apprend que de nombreux maîtres tournent cette loi. Ils tournent l'interdiction de mettre à mort leurs esclaves en pratiquant des mutilations sauvages. Le texte dit textuellement, ils coupent le nez, les oreilles, la langue, les lèvres, les pieds de leurs esclaves, ou leur arrachent les yeux, ou tranchent une partie quelconque de leur corps. Alors comment s'expliquent ces peines infligées aux esclaves? Elle ne s'explique pas, bien sûr, par le seul sadisme des maîtres, encore que dans certains cas, celui-ci soit flagrant. Les mutilations ont pour fonction particulière d'être exemplaires. Il s'agit de sanctions infligées très certainement aux esclaves rebelles. Et par ailleurs, ces mêmes esclaves rebelles, ou tout simplement indociles, sont enchaînés. La pratique de l'enchaînement des esclaves avait disparu, semble-t-il, depuis les beaux temps de l'Empire romain, si j'ose dire. On n'en avait plus de mention, et on en a à nouveau des mentions à l'époque wisigothique. Je cite la loi 9.1.2, « Quiconque libérera de ses fers ou de ses liens un esclave appartenant à autrui paiera 10 sous au maître de l'esclave pour la folie qu'il aura commise, ou, s'il ne peut pas payer, recevra 100 coups de fouet. » Autre critère maintenant, le critère des relations sexuelles entre libres et esclaves. D'une manière générale, elles sont interdites, car elles sont généralement assimilées à des pratiques de bestialité. Pratiques de bestialité dont, par ailleurs, s'occupent beaucoup les pénitentiels de l'époque. Et par conséquent, ces relations sont réprimées comme des relations contre nature. On en a de multiples exemples, car les lois barbares sont très loquaces à ce sujet. Par exemple, dans la loi des Visigoths, une femme libre qui a des relations avec un de ses esclaves est publiquement flagellée, puis brûlée vive. et son partenaire subit la même peine. D'une manière générale, tout homme esclave qui touche une femme libre est automatiquement mis à mort. Dans ce domaine, il y a malgré tout une dérogation, celle qui a pour but de permettre aux maîtres d'avoir des relations avec leurs propres esclaves femmes. Bien sûr, dérogation de type typiquement phallocratique. Mais seulement avec leurs propres esclaves femmes. S'ils touchent une esclave appartenant à autrui, ils sont punis. Par ailleurs, et ce qui montre bien que l'esclave n'appartient pas à l'espèce humaine, une femme dont le mari est réduit à l'esclavage peut immédiatement se remarier, exactement comme s'il était mort, comme s'il n'appartenait plus à la société humaine. Je conclus sur ce problème. Jusque vers la fin du 7e, jusque vers la fin du 8e siècle, donc 2 siècles et demi après la chute de l'Empire romain, le sort de l'esclave reste pratiquement le même que celui qu'il était au temps de l'Antiquité romaine. Alors une question se pose, qui est celle de l'influence de l'Église, puisqu'on dit que l'Église a adouci le sort de l'esclave. On laisse même entendre souvent que la fin de l'esclavagisme serait liée à l'action de l'Église. Toute la doctrine de l'Église sur l'esclavage est en fait tirée de saint Paul, de la première lettre aux Corinthiens, de la première lettre, de la lettre aux Éphésiens et de la lettre à Philémon. Mais les idées énoncées par saint Paul en la matière, à savoir que les esclaves doivent obéir aux maîtres et que les maîtres doivent traiter leurs esclaves avec douceur. Cette doctrine de saint Paul, ces idées de saint Paul, sont toujours interprétées dans le sens le plus défavorable aux esclaves. Exemple d'utilisation de la lettre à Philémon. Dans la lettre à Philémon, saint Paul renvoie à Philémon un de ses esclaves qui s'est réfugié auprès de lui, et lui demande de le recevoir comme un frère avec mansuétude. Eh bien, on se servira de ce texte de saint Paul pour refuser le droit d'asile aux esclaves. D'une manière générale, les épîtres de saint Paul sont toujours interprétées dans le sens d'une légitimation doctrinale de l'esclavage. Et c'est ce que nous trouvons en particulier dans Isidore de Séville. Je cite Isidore de Séville, enfin je résume sa thèse en la matière. L'esclavage, c'est l'expiation du péché originel. Il fait donc partie d'un plan divin de salut de l'humanité par la pénitence. Les maîtres sont donc justement investis d'un pouvoir de coercition sur leurs esclaves, et ceci pour le bien de tous. Et les esclaves méritent leur sort, car ils sont collectivement coupables. S'ils n'étaient pas collectivement coupables, on ne comprendrait pas que Dieu les maintienne en cet état. Sur le plan matériel, par ailleurs, les esclaves d'Église semblent traités exactement comme les autres. Ils subissent les mêmes sévices. Le Concile de Mérida, c'est le canon 15, puis le 11e Concile de Tolède, c'est le canon 6, interdisent aux clercs de pratiquer, je cite, des truncationes membrorum sur leurs esclaves. Preuve que la pratique des mutilations existait aussi sur les domaines d'Église. Donc on peut dire que pendant toute l'époque visigothique, la condition servile reste une condition extrêmement déprimée. Un fossé très profond continue à séparer le monde des libres et le monde des esclaves, ou plus exactement une barrière qui est conçue beaucoup plus que comme une barrière sociale. Elle est conçue beaucoup plus encore que comme une barrière raciale. Elle est conçue véritablement comme une barrière d'espèce. Quel est maintenant le nombre des esclaves? C'est une question plus difficile. Autrement dit, y a-t-il eu déclin de l'esclavagisme par diminution de la population servile. Ça serait en quelque sorte la thèse démographique du recul de l'esclavage, thèse qui par exemple avait déjà été émise par Marc Bloch. Si on réfléchit bien, on voit que cette diminution du stock des esclaves n'a pu se produire que de trois manières. Ou par décrue naturelle, ou par affranchissement, ou par la fuite des esclaves. Décrue naturelle d'abord. C'est possible. C'est possible étant donné la forte mortalité qui devait régner dans les milieux serviles. Des milieux qui étaient soumis à des conditions d'hygiène absolument effroyables, des conditions de travail particulièrement épuisantes, qui menaient par conséquent une vie extrêmement pénible. D'autre part, il faut tenir compte de la fréquence des avortements, des infanticides, qui sont signalés en particulier par les pénitentiels dans toutes les classes de la société. Mais ces avortements, ces infanticides, devaient être évidemment plus nombreux dans ces populations d'esclaves soumises à la misère et au désespoir le plus complet. Problème des affranchissements. Alors là, on retrouve l'action possible de l'Église. Effectivement, l'Église encourage les affranchissements, en fait en quelque sorte des œuvres pieuses. Par ailleurs, les vies de saints sont remplies de texte qui nous montre des rachats d'esclaves par les saints. Et à cela, on peut faire deux remarques. La première, c'est que si l'affranchissement est assimilé à un acte de sainteté, ces affranchissements devaient être assez peu nombreux. Et deuxième remarque, c'est que sur ses propres domaines, l'Église répugne à affranchir ses propres esclaves. Et ici, on peut citer des textes en quantité, en particulier des actes de concile. Je citerai pour la Septimanie le concile d'Actes de 506, pour l'Espagne le premier concile de Tolède, le quatrième concile de Tolède, le concile de Mérida, le neuvième concile de Tolède, etc. Tous ces actes de concile interdisent ou rendent pratiquement impossible l'affranchissement des esclaves d'Église. Et la raison invoquée est toujours la même, c'est qu'affranchir des esclaves, ça serait amputer le patrimoine de Dieu, puisque les esclaves appartiennent à ce patrimoine. Et on ne peut pas amputer le patrimoine de Dieu. Et il y a une deuxième raison qui est encore plus intéressante. C'est pas, on nous dit, on ne peut pas affranchir les esclaves, car c'est le travail des esclaves qui permet à l'Église de nourrir les pauvres. Alors c'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant car aux yeux de l'Église, les pauvres, ce sont ceux qui sont tout en bas de la hiérarchie sociale. Alors où sont les esclaves? Eh bien, ils sont en dehors de la hiérarchie sociale. Ils sont en dehors de la société humaine. Et un texte comme ça nous le prouve. Par ailleurs, le nombre des esclaves sur les domaines ecclésiastiques reste toujours élevé. Et ici, je cite le 16e concile de Tolède, qui considère qu'une église rurale ne peut entretenir de prêtres que si elle possède au moins 10 mancipia. Et si elle ne possède que 10 esclaves, d'ailleurs, elle est qualifiée de pauperima. Problème des fuites, maintenant. Il est certain qu'il y a eu des multitudes de tentatives de fuite. Mais ces fuites ont toujours été très cruellement réprimées. En fait, les fuites d'esclaves ne semblent avoir pris un caractère massif qu'à la fin de la période visigothique. Ces fuites sont attestées en particulier par les lois d'Égica, qui les qualifient de vice croissant, increscens vicium, qui déclarent qu'il n'est plus une seule ville, un seul faubourg, un seul village d'Espagne où ne se cachent des esclaves fugitifs. Et Rica promulgue en 702 une loi très répressive pour essayer d'enrayer ce phénomène des fuites d'esclaves. Donc, manifestement, à la fin du 7e, au début du 8e siècle, l'Espagne connaît une première crise du système esclavagiste, marquée par ses évasions massives d'esclaves. Crise qui, par la désorganisation du mode de production qu'elle a entraîné, a sûrement contribué à faciliter la conquête arabe. La loi des Jicas est de 702, 9 ans avant le débarquement des musulmans. Pourtant, cette crise ne marque pas la fin du système, puisque l'esclavage rural est encore largement attesté par la suite dans les sociétés chrétiennes du Nord, en Catalogne, dans les Asturies, en Galice, au 9e et encore au 10e siècle. En tout cas, s'il y a eu diminution du stock servile, par des crues naturelles, par affranchissement, par fuite, cette diminution a été largement compensée et au-delà par de nouvelles réductions en servitude. Alors là, je serai plus bref, parce que le système des réductions en servitude est assez bien connu. C'est le même que pendant l'Empire romain. D'abord, on a les condamnations judiciaires, qui s'abattent pour presque n'importe quelle raison sur les pauvres libres. C'est-à-dire sur tous ceux qui ne peuvent pas payer le vergeld, qui ne peuvent pas payer la composition pécuniaire prévue en cas de délit. Alors ils paient de leur personne, c'est-à-dire qu'ils sont asservis. Autrement dit, le système judiciaire fonctionne largement comme une machine d'asservissement des pauvres libres. Et on trouve en Catalogne des condamnations à la servitude extrêmement tardives, prononcées par des tribunaux publics jusqu'en 933 dans le comté d'Osona, 987 dans le comté d'Osona encore, 988 dans le comté de Barcelone. Ensuite, il y a les ventes d'enfants. Les ventes d'enfants comme esclaves par leurs parents sont autorisées par toutes les lois barbares, y compris par le capitulaire additionnel à la loi salique dont je parlais tout à l'heure et qui a été promulgué par Charlemagne en 803. Il y a une seule exception, et c'est toujours la même, et c'est à son honneur, c'est la loi visigothique. La loi visigothique, elle, interdit les ventes d'enfants par leurs parents. C'est la loi 5.4.12. Mais c'est très significatif, c'est l'une des seules, des très rares lois visigothiques qui ne prévoit pas de sanctions pour les contrevenants. Autre forme d'entrée en esclavage, les ventes de soi-même. On se vend soi-même, et par là même, puisque l'esclavage est héréditaire, on vend sa descendance. Ces ventes de soi-même sont bien entendu motivées par la faim, par la famine. En période de famine, des libres se vendent eux-mêmes et vendent leur descendance pour pouvoir survivre quelque temps. Ils se vendent pour quelques sacs d'orge, pour quelques sacs de blé. On a d'innombrables exemples de ces ventes de soi-même dans les actes de l'époque. Par exemple, la loi visigothique, c'est la loi 5.4.11, la loi visigothique les justifie en disant « Quiconque songe à se vendre n'est pas digne d'être libre. » On a aussi des exemples dans les formulaires visigothiqués. La formule 32, par exemple, nous donne un modèle de contrat pour se vendre soi-même comme esclave. Enfin, il y a la guerre qui dans l'Antiquité était la grande pourvoyeuse d'esclaves et qui continue dans une certaine mesure à jouer ce rôle pendant le haut Moyen-Âge. Je pense par exemple aux guerres qui se livrent dans la Gaule mérovingienne, je pense encore aux guerres carolingiennes, à la guerre contre la Saxe, beaucoup de Saxons, vous le savez, ont été réduits en esclavage, aux guerres que se livrent les différents royaumes anglo-saxons entre eux, et qui n'ont d'autre but que de rafler des esclaves sur le terrain de l'adversaire, En Espagne, les choses sont plus difficiles à discerner, mais je pense malgré tout que les guerres entreprises par les Visigoths contre les Basques ou les guerres entreprises par les Visigoths contre les Suèves ont dû aussi s'accompagner de nombreuses réductions en servitude. Alors si on fait un bilan, on peut dire que pour toute l'époque visigothique, les facteurs de diminution et les facteurs d'accroissement de la population servile s'équilibrent. Autrement dit, il me semble que le royaume visigothique reste un état tout aussi esclavagiste que l'Empire romain. Et si je le dis du royaume visigothique, je le dirai aussi bien des royaumes mérovingiens, je dirais aussi bien de l'Italie ostrogothique ou lombarde, aussi bien des royaumes anglo-saxons. Pour l'époque ultérieure, pour l'époque suivante, les données restent plus difficiles à apprécier. Malgré tout, on constate la survie d'une importante population servile dans les refuges chrétiens du Nord, en particulier dans les Asturies et en Galice. Ceci, Sanchez Albornoz l'a assez bien montré dans une série de ses études. Et ceci au 8e, au 9e et encore au 10e siècle. Et vous savez peut-être que la seule révolte servile qui soit attestée pour le haut Moyen-Âge s'est produite dans le royaume des Asturies, vraisemblablement en Galice d'ailleurs. C'est une révolte qui se place vers 770, et qui est réprimée par le roi Aurelio. Malheureusement, nous la connaissons très mal, il y a juste une phrase dans une chronique qui se réfère à cette révolte. On peut également se référer au testament d'Alphonse II en 842. Ce testament d'Alphonse II contient de très nombreux legs d'esclaves, y compris de prêtres esclaves. En Catalogne, il semble qu'au IXe siècle et jusqu'aux alentours de l'an 900, l'esclavage reste encore très vivace et on a des mentions de troupes serviles sur un certain nombre de grands domaines, en particulier en Roussillon. En Roussillon, on a un acte de 901 qui cite des troupes d'esclaves appartenant à 9 domaines. Et d'autre part, on peut se référer pour la région barcelonaise à l'acte de Dotalicium qu'établit le comte Sounière pour sa femme et qui là aussi fait référence à d'importantes troupes d'esclaves jusque dans la région frontalière, jusque sur le domaine de Cervellio. Alors dernière question concernant ces esclaves, quelle est la proportion des esclaves par rapport à la population libre ou par rapport à la population totale? Bien, cette proportion, je vous le dis carrément, elle est impossible à déterminer, faute de données chiffrées, faute de données quantitatives. Tout ce qu'on peut remarquer, c'est que très rares sont les sociétés où la population servile a dépassé en quantité la population libre. Il est très rare qu'on ait un taux d'esclaves supérieur à 50%, car à ce moment-là, ça devient beaucoup trop dangereux pour la population libre et les problèmes de maintien de l'ordre deviennent quasi insolubles. Alors je me référerai simplement à titre de comparaison à des études récentes qui ont été faites par des anthropologues sur des sociétés dont le niveau économique, dont l'état des forces productives est assez semblable à celui de l'Europe du haut Moyen-Âge. Je pense aux études qui ont été faites sur l'Afrique noire précoloniale, l'Afrique noire du XIXe siècle. Eh bien, dans ces régions, la proportion des esclaves à la population variait, selon les peuples, entre 5% et 50%. Donc vous voyez une fourchette qui est très large, et je ne peux pas vous en proposer d'autres pour l'Europe du haut Moyen-Âge. En tout cas, pour importante qu'elle soit, la population d'esclaves reste toujours minoritaire. Et c'est ce qui montre le caractère très imparfait du mode de production esclavagiste qui ne peut jamais intégrer qu'une partie des travailleurs et qui ne peut intégrer cette partie des travailleurs qu'au prix d'une répression tout à fait barbare. Je passe maintenant par conséquent à l'autre partie des travailleurs, c'est-à-dire à la paysannerie libre, et à son rôle dans le développement des forces productives. Je parle assez lentement, ça va, vous comprenez? Oui, ça peut aller, je continue. La paysannerie libre du haut Moyen-Âge a jusqu'ici été très peu étudiée, trop peu étudiée, et aussi en dépit de la place capitale qu'elle occupe dans le système de production. Jusqu'à une époque très récente, on ne considérait le paysan libre que sous les traits du colon de Saint-Germain-des-Prés, le fameux colon de Saint-Germain-des-Prés, établi sur son manse et devant des corvées à son maître. Eh bien, tout montre que cette image est une image tout à fait fragmentaire et fausse pour la plupart des régions d'Europe. Que cette image n'est valable que pour quelques domaines de la région parisienne, ou tout au plus quelques domaines situés entre la Loire et le Rhin. Ailleurs, en dehors des domaines esclavagistes dont je viens de parler, on trouve une paysannerie libre, c'est-à-dire vraiment libre, c'est-à-dire indépendante du mode de production dominant, c'est-à-dire non intégrée à ce mode de production. Alors ce paysan libre, quel est-il? Comment peut-on le définir? On peut d'abord le définir par son statut juridique, pour la bonne raison qu'il a un statut, à la différence de l'esclave qui n'en a pas. C'est-à-dire que le paysan libre ne peut être jugé qu'en vertu des coutumes, qu'en vertu des lois, par exemple la loi wisigothique, la loi salique, etc. Et il ne peut être jugé que par des tribunaux d'hommes libres, par conséquent par ses pairs. En tout cas, le paysan libre échappe au pouvoir de correction de quiconque. Autre définition, on peut définir ce paysan libre par sa capacité à porter les armes. Paysan libre, c'est un homme que l'on ne bat pas, je viens de le dire, mais c'est un homme qui se bat. Il participe aux expéditions militaires publiques, et de ceci nous avons beaucoup de témoignages. Je pense par exemple au capitulaire militaire de Charlemagne, de 807-808, capitulaire par lequel Charlemagne s'ingénie à définir des systèmes de recrutement qui permettent aux paysans libres de continuer à venir à l'armée, qui leur permettent de continuer à venir combattre dans l'armée royale. Car Charlemagne sait bien que le jour où l'armée sera devenue un monopole de l'aristocratie, la monarchie sera la prisonnière de l'aristocratie, et effectivement c'est ce qui se passera sous ses successeurs. De cela témoignent également les textes catalans, bien entendu. Les textes catalans qui nous montrent d'abord que les paysans libres possèdent des armes. Jusque dans les années 1000-1010, les plus anciens testaments de paysans qui nous soient parvenus comportent des legs d'armes. Et par ailleurs, on sait que les paysans catalans participaient aux expéditions publiques organisées par les comtes. À propos de l'expédition de 1010 à Cordoue, on sait qu'elle comprenait aussi bien des maximi que des minimi, par conséquent des fantassins. D'autre part, il faut bien penser que jusqu'au 9e, 10e siècle, le rôle de la cavalerie reste mineur dans les batailles. L'essentiel du combat se fait à pied. Jusqu'au 10e siècle, le cavalier monté descend de cheval lorsqu'il s'agit de se battre. Par conséquent, les batailles sont des batailles de fantassins. Et dans ces batailles de fantassins, le paysan a son rôle à jouer. Autrement dit, il a des armes pour se défendre, et c'est une garantie de sa liberté. Le paysan libre peut aussi se définir par son statut économique. Et ici, il faut distinguer les halletiers et les tenanciers. Alors, pour les halletiers, l'importance de l'hallet paysan pendant le haut Moyen-Âge ne cesse d'être soulignée dans toutes les études récentes, quelles qu'elles soient. Pour l'Espagne du Nord-Ouest, je vous renvoie à Sanchez Albornoz. Pour la Catalogne, eh bien, on sait que dans certaines régions, l'hallet paysan est majoritaire. J'ai pu calculer, par exemple, grâce à une documentation tout à fait exceptionnelle, la proportion des halletiers paysans sur le territoire de San Quintos de Bages, qui s'appelait alors Montpeita, et on trouve là à peu près 80 à 90% des parcelles appartenant à des paysans. C'est le cas même dans des régions que l'on croyait voué complètement jusqu'ici au grand domaine, au système domanial. Et l'exemple le plus typique, c'est la Picardie. La Picardie, tout le monde pensait jusqu'à une époque récente que c'était vraiment la terre bénie du grand domaine. Eh bien, Fossier déclare que pour le haut Moyen-Âge, il y a prédominance de l'hallet paysan. Pour les tenanciers, eh bien, les tenanciers, il ne faut pas les imaginer sous les traits du colon de Saint-Germain-des-Prés. La tenure prédominante au Moyen-Âge, ce n'est pas le manse. La tenure prédominante, c'est la censive, ou plus exactement, c'est la tenure emphytéotique. Le paysan doit une part de la récolte au maître, une part variable, un onzième, c'est la tasca catalane, un dixième, souvent un quart. Mais lorsqu'il a versé cette part de la récolte, le paysan ne doit plus rien au maître et il reste un homme libre. Et cette paysannerie libre, aussi bien halletière que tenancière, est forte parce qu'elle est groupée. Elle est groupée en communautés rurales. Et ici, je pense bien sûr à la Catalogne. Je pense aux communautés des hautes vallées pyrénéennes, où quelquefois, au IXe siècle, on voit les paysans construire d'eux-mêmes leur église, nommer le curé de l'église, avec simplement l'autorisation de l'évêque d'Urgel. Là où partout ailleurs c'est le seigneur qui nomme le desservant de l'église, ici ce sont les communautés villageoises qui le nomment. Et je pense bien sûr aussi aux communautés du bas-pays, aux communautés auxquelles ont été accordées des chartes de franchise, Montmeil, Ribes, Cardona et beaucoup d'autres. Donc c'est cette paysannerie libre, cette paysannerie fortement organisée, qui, me semble-t-il, se trouve à l'origine du développement des forces productives. Sur ce point, on peut dire que pendant longtemps, l'histoire médiévale est resté sur une idée fausse, sur une idée anachronique, à savoir que le progrès technique se serait réalisé uniquement sur les grands domaines. Ceci, c'est une idée d'historien du siècle dernier. C'est une idée d'historien de la révolution industrielle, de gens qui pensaient que le progrès ne pouvait se réaliser que dans les grandes concentrations. En réalité, tout nous montre que le grand domaine esclavagiste ou coloniaire, était au contraire en retard sur la petite exploitation paysanne. Il était en retard du fait de l'inertie de la main-d'œuvre, de la mauvaise volonté que la main-d'œuvre mettait à effectuer un travail gratuit, la main-d'œuvre qui refusait toute innovation parce que ça aurait été pour elle un travail supplémentaire. Et ce retard est dû aussi au désintérêt des maîtres pour le travail agricole. Alors, on peut penser que les grandes innovations techniques prennent leurs racines dans la paysannerie indépendante. Et que, d'autre part, ces progrès techniques sont beaucoup plus précoces qu'on ne le pensait généralement jusqu'ici. Prenons l'exemple de l'outillage de fer, très important. puisque c'est l'outillage de fer qui va permettre la mise en culture de nombreuses terres nouvelles. Parce que cet outillage de fer sera indispensable au défrichement, aux conquêtes de terres. Cet outillage de fer, il se diffuse dès le Xe siècle. Et il se diffuse à partir des forges rurales que l'on voit se créer à partir de ce moment-là un peu partout. Fossier l'a montré pour la Picardie, Toubert l'a montré pour le Latium, et on constate exactement la même chose en Catalogne. Là encore, si on se réfère aux plus anciens testaments catalans que nous ayons conservés, on s'aperçoit que les plus petites exploitations paysannes du début du XIe siècle sont mieux équipées en outils de fer que ne l'étaient les villes carolingiennes, que ne l'étaient les fils carolingiens décrits par les polyptiques. Même chose en ce qui concerne les moulins, la conquête de l'énergie hydraulique. Je passe rapidement sur ce point-là. Bien sûr, les moulins existaient à l'époque wisigothique, mais ils étaient très peu nombreux, très rares, car très coûteux. La grande époque de diffusion des moulins se situe au Xe et au XIe siècle, plutôt au Xe même qu'au XIe. Et ces premiers moulins sont très souvent des moulins paysans, des moulins construits par des associations de paysans. Et on s'en aperçoit parce que dans les actes de vente, on s'aperçoit que la propriété du moulin est divisée en parts, généralement 14 parts, correspondant à 7 nuits et à 7 jours d'utilisation de l'eau du moulin. Alors tel paysan vend à un autre une nuit de moulin ou un 14e de moulin, etc. Ceci nous montre bien que ce sont des moulins halletiers construits par les petits paysans. Ce n'est qu'au XIe siècle que ces premiers moulins paysans, rudimentaires, peut-être un peu mal construits, fragiles, seront éliminés par des moulins plus puissants, plus coûteux, ceux qui sont alors construits par les seigneurs, ceux qui sont construits aussi par les monastères. Et on peut dire la même chose des conquêtes de terre, des grands défrichements, qui sont beaucoup plus précoces qu'on ne le croyait généralement jusqu'à une époque récente. Dans toute l'Europe du Midi, on peut dire que la grande époque des défrichements se situe avant l'an 1000. Je dis bien avant l'an 1000. Je prends l'exemple du Latium, et je cite textuellement Toubert. Toubert écrit « On doit considérer comme un fait acquis que la conquête agraire et l'euphorie démographique qui la sous-tend sont antérieures au début du Xe siècle. Par conséquent, la grande phase de conquête agraire en Latium se situe entre le 8e et le 10e siècle. Si l'on prend la Catalogne, la phase d'apogée des défrichements, et ceci Ramon d'Abadal l'a parfaitement montré, elle se situe dans la deuxième moitié du 9e siècle et la première moitié du 10e siècle. Pour l'Europe du Nord, évidemment, on est moins assuré, faute de documents. Malgré tout, il y a des indices de défrichement très précoces dans le bassin parisien, en Picardie, dans les Midlands, en Angleterre, et même dans certaines régions de Germanie. Si bien que Duby a pu, par exemple, donner comme sous-titre à son livre « Guerriers et paysans » 7e, 12e siècle, premier essor de l'économie européenne, un essor qui fait commencer très tôt, dès le 7e siècle, et on ne peut que lui donner raison. Alors ces conquêtes de terre, ces aménagements ces aménagements agricoles ont été aussi le fait pour l'essentiel de la paysannerie libre. C'est absolument certain pour la Catalogne, et c'est vraisemblable pour tout le reste de l'Europe, de l'Espagne chrétienne. L'expansion agraire, elle est le produit des montagnards descendus de leur haute vallée, descendus des Pyrénées ou descendus de la chaîne Cantabrique, descendus dans le bas pays, souvent au péril de leur vie, et la colonisation s'est faite dans le cadre de l'halle paysan, là le paysan naît lui-même de la prison en Catalogne, né de la pressura en Castille, de l'escalio en Aragon. Pour le Latium, on pourrait dire la même chose. Ailleurs, c'est plus difficile d'en juger. Malgré tout, très vraisemblablement, on peut dire que la première phase d'expansion agricole, celle qui précède l'an 1000, c'est une phase d'expansion agricole paysanne spontanée, qui s'est faite en dehors des seigneurs et quelquefois même à l'insu des seigneurs, c'est-à-dire de manière clandestine. En tout cas, le résultat de cet essor des forces productives, le résultat de ces conquêtes de terres, c'est bien entendu un accroissement sensible de la production agricole dès le XIe siècle, c'est la création d'un surproduit né du travail paysan, et l'avènement du féodalisme ne sera rien d'autre que la confiscation de ce surproduit par la classe dominante. Dernier point, la fin de l'esclavagisme et l'avènement du mode de production féodal. La fin de l'esclavagisme. La fin de l'esclavage rural est à mettre directement en relation avec l'expansion agricole. Les régions où l'esclavage rural disparaît le plus complètement et le plus tôt, ce sont celles qui ont connu l'expansion agricole la plus forte et la plus précoce. C'est-à-dire les pays du Midi. Là encore, je cite le Latium. En Latium, le phénomène apparaît de manière particulièrement spectaculaire. L'esclavage rural, qui était largement attesté auparavant, disparaît radicalement au Xe siècle. C'est ce que Toubert appelle la grande rupture du Xe siècle. Et Toubert met directement cette disparition en relation avec la création de fronts pionniers en Sabine, c'est-à-dire dans les Apennins. La raison de cette disparition de l'esclavage, c'est tout simplement que l'expansion agricole suppose une grande mobilité de main-d'œuvre. En effet, quand on crée des exploitations agricoles nouvelles, quand on les crée à des dizaines de kilomètres des centres domaniaux, on ne peut pas les faire exploiter par des esclaves, parce que ces esclaves, évidemment, s'enfuiraient le lendemain. Par conséquent, si on veut les faire exploiter, il faut au préalable affranchir les esclaves. D'où une vague d'affranchissement pour cause économique, et non pas pour cause pieuse, comme je le disais tout à l'heure. D'affranchissement pour cause économique dans le courant du Xe siècle. Et l'expansion agricole, Toubert, la met au crédit de ce qu'il appelle le petit prolétariat des affranchis. En Catalogne, c'est un peu la même chose. On assiste à la même disparition radicale du vieil esclavage, avec simplement un léger décalage chronologique, puisqu'en Catalogne, la dernière mention d'esclaves autochtones, d'esclaves chrétiens, est de 1035 et se trouve dans le testament du comte Guifred de Cerdagne. En tout cas, on peut dire qu'en Catalogne, la mort du système esclavagiste, qui était encore bien vivant au IXe siècle, date pour l'essentiel du Xe. Vers l'an 1000, ce n'est plus qu'un vestige. Et on peut trouver une chronologie tout à fait semblable pour l'Auvergne. Une thèse va être soutenue prochainement sur l'Auvergne, c'est la même chose. Une chronologie aussi à peu près semblable pour la Provence. Ce qui fait que dans toute l'Europe du Midi, et je crois que ceci est important, dans toute l'Europe du Midi, il a existé un moment privilégié où le système d'esclavage, le système d'exploitation antique, fondé sur l'esclavage rural, a totalement disparu, alors que le nouveau système d'exploitation, le système d'exploitation lié au régime féodal, n'est pas encore apparu. Donc il y a, si vous voulez, dans ces pays du Midi, un instant de liberté. Un instant de liberté que nous pouvons situer, si vous voulez, en Catalogne, au début du XIe siècle, dans la première moitié du XIe siècle, en Latium peut-être un peu plus tôt, vers la fin du Xe siècle. Je ne parle pas de l'Europe du Nord, parce que là le problème est un peu plus flou. Et l'Europe du Nord, je suppose, vous intéresse un peu moins. L'essentiel, c'est de savoir que le système esclavagiste a laissé la place à l'instauration d'un mode de production radicalement nouveau, le féodalisme, infiniment plus large que l'ancien système esclavagiste, puisque le système féodaliste lui englobe la totalité de la paysannerie, alors que le système esclavagiste n'en englobait qu'une minorité. N'en englobait qu'une minorité, d'ailleurs, au prix d'une répression atroce, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour finir, les modalités d'intégration de l'ancienne paysannerie libre dans le mode de production féodal. L'instrument de cette intégration, vous le connaissez, c'est la seigneurie. C'est la seigneurie que nous pouvons appeler au choix seigneurie banale, juridictionnelle, castrale, c'est la même chose. En quoi consiste l'instauration de la seigneurie? C'est l'instauration d'un nouveau pouvoir qui est fondé sur la force militaire, qui est fondé sur la domination militaire et plus particulièrement sur la possession des forteresses. Qui sont les maîtres des forteresses? Ce sont dans la plupart des cas, vous le savez, les descendants des anciens officiers publics carolingiens, c'est-à-dire les descendants des anciens vicarii carolingiens devenus châtelains. Leur action va consister à transformer un pouvoir de fonction qu'ils tenaient des comtes, qu'ils tenaient des rois, transformer un pouvoir de fonction en pouvoir d'exploitation. Et leur action, dans bien des régions, va prendre une forme extrêmement brutale, et c'est justement le cas en Catalogne. C'est par la terreur qu'ont été soumis les anciens paysans libres, et le sang a coulé en bien des régions de Catalogne, aussi bien en Vallès qu'en Penedès, qu'en Pallars. Ce qui assure la réussite de cette action, c'est la transformation des techniques militaires, c'est la transformation de la pratique du combat à cheval, qui privilégie maintenant de manière absolue le cavalier par rapport au fantassin, qui privilégie par conséquent l'aristocratie propriétaire de chevaux qui va devenir la caste des chevaliers, à la paysannerie qui n'est plus qu'une piétaille et dont les armes maintenant sont complètement périmées, sont complètement désuètes. Autrement dit, dans cette lutte, le triomphe de l'aristocratie était inscrit dans le rapport des forces, ou plus exactement, dans ce que j'appellerais le développement des forces destructives. Car on parle toujours du développement des forces productives, il ne faudrait pas oublier le développement des forces destructives, le développement de l'armement, qui joue ô combien son rôle dans le développement de l'histoire. On s'en aperçoit aujourd'hui encore. En tout cas, les conséquences de l'instauration de la seigneurie ont été immenses. Pour la paysannerie d'abord, la nouvelle seigneurie englobe toute la paysannerie, y compris et surtout les anciens halletiers libres, qui sont désormais promis à la condition de manant. Elle soumet par ailleurs la paysannerie à des charges très lourdes, des charges arbitraires. La seigneurie permet des fonctions directes sur le travail paysan. C'est la confiscation de ce surtravail paysan, de ce surproduit paysan dont je parlais tout à l'heure. Et ceci par le biais des exactions, par le biais de la taille essentiellement, que l'on appelle judicieusement en Catalogne la tolte. Que l'on appelle judicieusement en Catalogne la tolte, tolte qui vient au latin tolérer, tolérer ce que l'on prend, ce que le Seigneur prend arbitrairement dans les ressources paysannes en vertu du droit du plus fort. Et d'autre part, la seigneurie soumet les anciens libres à un régime d'étroite dépendance qui va fonder bientôt ce qu'on appellera la nouvelle servitude. Nouvelle servitude alors qui en Catalogne deviendra la page de la Remensa, qui deviendra les Mals Russos, qui en Languedoc deviendra le nouveau servage des 12e, 13e siècles, sans aucun rapport avec l'ancienne servitude du haut Moyen-Âge. Pour l'aristocratie, même transformation, l'instauration de la seigneurie banale transforme les structures de la classe dominante, c'est-à-dire qu'elle intègre dans la noblesse tous les auxiliaires du pouvoir seigneurial qui se sont rendus indispensables aux seigneurs, elle intègre dans la noblesse toutes les troupes de vassaux qui ont contribué à asservir la paysannerie, à la mettre en condition. Il s'agit des milites castri, il s'agit des cavalers, des castans, de toutes les garnisons qui logent dans les donjons. Il s'agit par conséquent de tous les agents armés de la domination seigneuriale qui, pour salaire, vont être admis dans la noblesse, quoiqu'à une place intérieure d'ailleurs. Donc, les effectifs de l'aristocratie s'accroissent dans des proportions absolument considérables, qu'il est difficile de calculer, qu'on pourrait calculer, on pourrait faire une statistique sans doute, si quelqu'un un jour est assez vaillant, il la fera. Mais il est vraisemblable que les effectifs de l'aristocratie ont été multipliés au moins par 5, peut-être par 10, peut-être par 20 ou par 30 dans le courant du XIe siècle. C'est une toute nouvelle noblesse que nous trouvons à la fin du XIe siècle par rapport à l'ancienne. Autrement dit, le résultat de la croissance, ça a été tout simplement le gonflement des effectifs de la classe dominante. Par ailleurs, on assiste à l'instauration du régime du fief. Puisqu'il faut rémunérer les agents du pouvoir seigneurial, ces auxiliaires dont je parlais tout à l'heure, ces castlans, ces cavalers, on les rétribue avec des fiefs. Et la composition de ces fiefs en Catalogne est tout à fait intéressante, tout à fait éclairante. On s'aperçoit que ces fiefs se composent bien sûr de quelques pairs, mais se composent la plupart du temps surtout de fractions des revenus de la seigneurie banale, fractions de toltes, fractions de malsousses, fractions de banalité. Par conséquent, les vassaux sont associés au bénéfice des profits de la seigneurie. Le fief apparaît ainsi comme le mode de redistribution entre les membres de la classe dominante des revenus nés de la croissance et confisqués à la paysannerie. Pour finir, les réactions de la paysannerie. Face à l'instauration de cette seigneurie, les réactions de la paysannerie ont pris diverses formes, quelquefois des formes violentes. L'avènement du féodalisme s'est déroulé dans la violence, et à la violence nobiliaire a souvent répondu une contre-violence paysanne. On a pu avoir des luttes de classes ouvertes, et je pense bien sûr en premier lieu à la grande conjuration paysanne de Normandie en 1996 qui est écrasée dans le sang par Robert Ier. En Catalogne, des luttes se sont déroulées en Vallès, au cours desquelles Mir Géribert et ses troupes de milites ont réussi à anéantir les vieilles libertés paysannes, les vieilles franchises paysannes, comme on l'apprend lors du procès de Mir Géribert en 1059. Il est dit textuellement « Ils tuèrent les hommes et les passèrent au fil de l'épée. Ils en flagellèrent d'autres et ils leur cassèrent la tête. » Donc des luttes de classes ouvertes, mais aussi des luttes larmées, qui sont qualifiées dans les textes de brigandage, les troupes de paysans fugitifs ou rebelles qui se regroupent en bandes que l'on prend pour des bandes de brigands. On peut classer dans ces bandes de brigands, par exemple, les Latrum Culi Christiani que Toubert signale en Latium. On a d'autres exemples en Provence. Autre forme de résistance paysanne, la participation au mouvement de la paix de Dieu, bien sûr, mouvement d'origine populaire, marqué au départ d'une certaine tonalité révolutionnaire, au moins à ses débuts. Il s'agit de mettre fin, ou du moins d'imposer des limitations aux exactions seigneuriales. Et là, la paysannerie trouve une alliée en la personne de l'Église, ou du moins en la personne de certains clercs, de certains abbés, de certains évêques, comme l'abbé Olive Adétique. Et enfin, peut-être, dernière forme de résistance paysanne, la participation des paysans à certains mouvements hérétiques populaires du XIe siècle, l'hérésie traduisant sur le plan idéologique le malaise social. Comme conclusion, mes conclusions seront plutôt une ouverture destinée à introduire un débat, je ne sais pas si nous aurons le temps de faire ce débat. Première conclusion, elle concerne la chronologie de la transition. Je crois que la transition ne se place pas là où on l'a placée généralement, c'est-à-dire à la charnière Antiquité-Moyen-Âge. Je crois qu'elle se place plus tard, beaucoup plus tard. Elle ne s'amorce qu'à la fin du 7e ou au début du 8e siècle, c'est ce que j'ai appelé la première crise du régime esclavagiste, à l'époque du roi Éphica, par exemple, avec toutes ces fuites d'esclaves qui sont signalées à ce moment-là. Crise, d'ailleurs, dont on trouve le correspondant exact dans l'Italie lombarde. Mais cette crise, si elle fait vaciller le système, ne l'abat pas véritablement. La liquidation de l'esclavage de type antique se situe encore plus tard, se situe aux approches de l'an 1000. Et cette liquidation est suivie de l'instauration d'un nouveau mode de production du régime féodal. Deuxième conclusion, c'est que le haut Moyen-Âge, principalement les 8e, 9e et surtout le 10e siècle, le haut Moyen-Âge n'est pas une époque de déclin, mais une époque de croissance. Une époque de croissance, bien sûr, difficile à connaître, mais une époque de développement des forces productives. Et cette croissance est à mettre au crédit pour l'essentiel de la paysannerie libre. Et c'est cette croissance qui, à terme, va faire craquer les cadres vermoulus du système esclavagiste ou de ce qu'il en reste. Enfin, une dernière conclusion en deux mots, c'est que cette mutation ne s'est pas faite sans violence, ne s'est pas faite sans faire couler le sang. Le XIe siècle est un siècle de violence exacerbée. Il s'agit bien d'une révolution. Duby a utilisé récemment le terme de révolution féodale et je crois qu'il a eu pleinement raison.
A los hombres que repoblaron la marca del Panadés en la primera mitad del siglo. Y sin embargo, por lo que podamos saber por la documentación de archivo, esos hombres roturaron de nuevo las tierras, naturalmente las tomaron por aprisio, naturalmente, pero además reconstruyeron de nuevo las fortalezas, las poseyeron, muchos de ellos eran vegueres condales y muchos de ellos eran parientes de la primera mitad del siglo.
Al final de su intervención.
Al final de la pregunta, sí. ¿Son estos los campesinos libres de la primera mitad del siglo XIX?
¿Son campesinos libres? Sí. Je comprends pas le sens de la question. Si les paysans du Penedès, en dehors du Vallès ou du Penedès, est-ce que les paysans catalans sont libres? C'est ça votre question?
Non. La pregunta est. Las gentes que repoblaron la marca del Panadés, que en la documentación de los archivos aparecen como vegueres, como vicarios, el conde, o como parientes de sus leyes, ¿se pueden llamar a esa gente campesinos libres?
El problema que yo pongo es si esta es la gente que repuebla la marca de Panamés, si esta es la gente que toma las tierras por aficio, ¿dónde quedan los campesinos libres que, según lo que usted explicaba en esta conferencia, sería la gente que no puede?
Bon, vous savez, il y avait beaucoup de terres, hein, il y avait beaucoup de terres vierges dans toute la Catalogne. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le comte gardait pour lui-même une partie de ses terres. Il en donnait ensuite une partie à quelques monastères. Il en donnait aussi comme terre de fonction aux vicarii dont vous parlez. Hein. Mais il restait encore beaucoup d'autres terres, et ces terres, le comte les abandonnait tacitement à tous ceux qui voudraient s'y installer. Et c'était la majorité des terres qui étaient ainsi dévolues à la paysannerie. Par conséquent, les terres dévolues au viguier, à l'église et au comte lui-même ne représentent qu'une minorité des terres par rapport à celles qui sont effectivement occupées par les paysans libres. Donc les paysans libres sont bien majoritaires.
A través de la conversación que nos hablamos, eso para mí no queda claro, puesto que no es el conde quien les da a los vicarios las tierras de la marca del Panadés, por ejemplo, sino que son ellos que las toman por aprisio. O sea, los hombres que toman por aprisio las tierras y que las roturan de nuevo en la marca son los que después van a ser, son los vicarios los que van a ser los posesores, los castillos que los reconstruyen y los que los posesores.
Bueno, ahora hay que distinguir entre plusieurs tipos de documentos. Vous avez effectivement des documents très solennels, qui sont très connus, où on voit de très vastes régions qui sont concédées à des viguiers, à des vicarii, à des vicomtes, etc., etc., ou à des monastères. Ce sont ces documents-là qui ont surtout été étudiés jusqu'à une époque récente. Mais à côté de ça, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de parchemins qui, eux, nous montrent une véritable propriété paysanne, née de la prison. Alors, quand on vous dit tout le territoire de tout le Panedès, par exemple, tout le Panedès oriental appartient à la famille vicomtale de Barcelone, c'est faux. La famille vicomtale de Barcelone, elle possède des droits de juridiction sur le Panedès oriental. Mais à côté de ça, vous avez des milliers et des milliers de paysans qui sont installés là, et qui sont des paysans libres propriétaires de leur alleu.
¿Cuál sería un documento de un personaje que en la marca del Panadés compra un molino o vende unas tierras para adquirirlo como tal vez al ambiente? ¿Cuándo si se estudian las relaciones que unen a todos los hombres que aparecen en la documentación del Panadés en la primera mitad del siglo X? Suele acabar deduciéndose que son parientes unos de otros y al final parientes muchos de ellos deben querer un conto. Mi pregunta es si muchos de esos que parecen paisanos libres, campesinos libres, en un documento determinado, no están dentro de la esfera más cercana al poder de lo que pueda aparecer.
Alors, cette propriété des paysans libres, en réalité, on ne l'aperçoit presque jamais au moment où elle disparaît. C'est-à-dire que ce qu'on possède essentiellement, ce sont des actes de vente. Les actes de vente qui peuvent être conclus en faveur de viguiers, on en a, des actes de vente ou de donations qui peuvent être conclus en faveur de monastères, mais aussi des actes de vente entre paysans, entre eux. Et lorsqu'il y a, et c'est la majorité quand même, et lorsqu'il y a ces actes de vente de parcelles entre paysans, entre eux, on peut bien conclure que les paysans, que le vendeur et que l'acheteur sont propriétaires de leurs terres. Hein. Ceci dit, alors, les phénomènes sont assez complexes, parce que vous pouvez avoir un phénomène de donation d'une villa entière. Une villa entière est donnée à un grand personnage, à un vicarius par exemple. La première impression, c'est de dire que ce vicarius, il est propriétaire de toute la villa. Seulement dans la documentation, on trouve ensuite des quantités d'alleux, des quantités de parchemins, qui prouvent des ventes faites de paysan à paysan, et chacune de ces ventes porte sur des alleux. Alors qu'est-ce que c'est que la villa catalane? Moi je me le demande. Qu'est-ce que c'est qu'une villa qui est comme ça parsemée dans le paysan? La villa c'est simplement un ensemble juridictionnel. Les colons, on n'en trouve pas beaucoup en Catalogne. Des colons libres soumis à des corvées au Moyen-Âge, on n'en trouve pas. ou pratiquement pas. Le colon, il doit des redevances en nature. Il doit des redevances proportionnelles à la récolte, essentiellement. Alors, c'est le problème que vous posez par contre, c'est celui des cerviques azotiques. C'est sûr que le chassement des esclaves s'est développé à partir d'une époque qui est difficile de déterminer, mais peut-être du 8e siècle. On a de plus en plus, effectivement, d'esclaves installés sur des tenues. Il reste malgré tout des esclaves domestiques. Il reste quand même une famille d'esclaves domestiques. Et on en a encore des mentions tardives. Déjà au 3e siècle, il y a une classe unifiée des esclaves et des paysans.
J'ai lu ça.
Moi, je ne lis pas beaucoup. Hein. Je ne lis pas beaucoup, mais il y a donné le véritable fossé entre les uns et les autres. Il y a une véritable ségrégation qui se maintient pendant très longtemps. Le rapprochement, si vous voulez, entre les esclaves et les pauvres paysans est dû peut-être en partie à la dégradation du sort des pauvres paysans. C'est-à-dire que les pauvres paysans ont été réduits à une condition telle que leur condition se rapproche progressivement de celle des esclaves. Et à ce moment-là, on voit apparaître effectivement quelques mariages mixtes entre esclaves et paysans, bien qu'ils soient tout à fait interdits par la loi. On commence à l'apercevoir à partir du 9e siècle. Et il y a aussi un autre facteur qui a joué. J'ai parlé de la christianisation. J'ai été aussi, par manque de temps, trop schématique concernant la christianisation laïque, même souvent une position plus dure encore. Mais si on considère maintenant le christianisme lui-même, le christianisme donne une âme à l'esclave. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que donnant une âme à l'esclave, il en fait une personne humaine. Et par conséquent, il y aura toujours un hiatus, désormais, entre la législation qui veut maintenir l'esclave dans l'animalité et d'autre part, la condition spirituelle de l'esclave qui en fait un chrétien à part entière. Il sera de plus en plus difficile de considérer l'esclave comme un animal, dans la mesure où l'esclave reçoit les sacrements, et dans la mesure où l'esclave se rend à l'église avec les autres fidèles. Et la création des églises, en particulier des églises paroissiales, a certainement beaucoup fait pour rapprocher les hommes libres et les esclaves. Si vous voulez, l'action du christianisme, moi je la vois surtout à ce niveau-là. Je ne la vois pas au niveau des déclarations des évêques, voire de la papauté. Je la vois dans la fréquentation quotidienne, ou en tout cas hebdomadaire, des esclaves et des libres qui fréquentent la même église et qui participent aux mêmes cérémonies religieuses. Ils ont appris à mieux se connaître, ils ont appris à voir qu'ils appartenaient à la même espèce, qu'ils vivaient dans les mêmes conditions, qu'ils recevaient les mêmes sacrements, etc. Ce sont des esclaves domestiques. Il y a d'autres comtes catalans qui affranchissent aussi des esclaves à cette époque-là, entre 970 et 1035, souvent des esclaves qui les avaient accompagnés en pèlerinage. Alors au retour du pèlerinage, on les affranchit. Mais les groupes d'esclaves domestiques ont été les derniers à disparaître. Et d'ailleurs, ce sont ces groupes d'esclaves domestiques qui ont été remplacés par les premiers groupes d'esclaves domestiques sarrasins.
El fenomen de l'existència fenomen propi de Catalunya al segle X és general a l'Europa del Sud.
Est-ce que la pagesia de Rebens est un fenomen général propi à Catalunya ou général à toute l'Europe du Sud? D'abord, il faut savoir si le fenomen de pagesia de Rebens est général à toute la Catalogne. Bon, alors ça c'est un premier problème. Elle n'a pas été aussi générale qu'on le croit en vieille Catalogne, mais que par contre, elle a existé en nouvelle Catalogne. Et on a bien des exemples de servitude jusque dans le Bas-Penedès, jusque dans la conque de Barberà. Alors par conséquent, la pagesia de Rebens caractérise toute la Catalogne, un peu plus le nord, un peu moins le sud. Maintenant, en dehors de la Catalogne, on ne trouve pas si vous voulez, les charges spécifiques qui portent sur le paillage de Rémence. Le paysan, le cercle anglo-nocien, il est soumis lui aussi à des quantités de services, de corvées, de limitations de liberté. Ce ne sont pas exactement les mêmes. En tout cas, il ne peut pas léguer, pas plus que l'esclave catalan ne peut léguer. Il a certaines restrictions à ses possibilités de mariage comme le cercle catalan. Par contre, des choses comme la couboussia, je pense que c'est typique de la Catalogne. Je crois.
Ma question c'est que si ce qu'il y avait de paysans armés en Catalogne, armés avec, en portant déjà des armes,
oui.
Paysans libres, c'était une question qui avait relation avec la lutte contre l'Espagne musulmane ou c'était un phénomène plus général? Le fait que les paysans étaient armés contre le Seigneur ou...
Bon, alors, le problème de l'armement paysan, c'est un problème qui n'a pas été tellement étudié jusqu'à présent, qui mériterait de l'être. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à une très, très haute époque, disons à l'époque mérovingienne, le paysan généralement est armé. Mais qu'est-ce que c'est que cet armement paysan? Le paysan, il a deux armes. Il a l'arc et le couteau. C'est complètement de l'être. À partir du moment où les méthodes de combat ont changé et où l'armement s'est affectionné. Hein. Ce qui fait que l'armement paysan il devient complètement dérisoire à partir du 10e, 11e siècle, à partir du moment où c'est le combat à cheval avec la lourde épée, avec la lance, avec le homme, le haubert, etc., qui s'impose. De ce point de vue, il y a des documents qui sont tout à fait intéressants à relâcher. Avec le haubert, le homme, la longue épée, etc. Et on voit des paysans qui, eux, ont quelquefois une pièce d'armure, quelquefois ils ont un casque, mais la plupart du temps ils n'ont rien. Et qui lancent soit des javelots, soit pour la plupart des pierres. Ils se battent à coups de pierre. Hein. Ça montre bien la différence, par conséquent, du potentiel d'armement qui se crée entre aristocratie et paysannerie à partir du 10e, 11e siècle. Alors que jusqu'auparavant, les différences d'armement n'étaient pas considérables.
Est-ce que les sants que les vies de Sant Orm Merovingique, publicades en el Zeimer, perdona, en una germania històrica, estan plenes de sants que redimeixen esclaus o servents. Però cal dir una cosa, no tots els que van redimir servents van ser declarats sants. Primer perquè no hi havia declaracions oficials, això són coses de populars i el bisbe d'admetia la santedat d'aquell. Per tant, ni segurament era molt més extens la redempció d'una bona persona, d'un bon senyor, que no que arribi a sant, que redimia o tractava millor els seus esclaus del que passa. Com pot haver ara una altra senyora. L'altra cosa, suposo que amb això estareu d'acord, que no només en les vides dels sants apareixen, els sants són els únics que redimien. I altres vegades hi ha sants que no n'han redimit.
El paisà, diguem, no era esclau, encara, que hi ha deixat de ser. Però el paisà ha dit, si això no està en relació amb les lluites d'arts i precisament amb la fe de Crònica, que va morir els miracles, sant i de Vicky, de Friuri, que explica la inclusió de Tornadec, no? Cap aquí al Bages, i Manresa, per aquesta rella de Barcelona, i que té una lluita a Torana, interessantíssima, en què comença a utilitzar per primera vegada els tambors i vals. És la primera cita d'Europa, i a més a més amb cavalleria. Aleshores, això força les tropes cristianes a treballar en ho dic perquè, esclar, això és un pas perquè el paisà, que només hi ha doncs de mà, es quedi terra i si no té cavalls, doncs no el pugui actuar. Primer pas de lo que vos veus. I l'altra cosa ben augmentada des del diumenge i la vigília i dissabte, cap a l'any 27, a Elna, per Oliva de Vic, substituint el seu valor per un tren seu, que s'ha
eliminat.
Si la treva de Viu no és precisament això, una protecció del cor del desvalgut, que perquè el senyor persegueix, se'n van allà, hi ha uns passos, a 30 passos de l'església, en el sacrari, en la sagrera, allà està protegit i no li porta res. És a dir, és una intervenció, en aquest cas, d'Oliva, concretament, que va fer molt per Catalunya, una part d'altres escrites, no? Que no ha arribat mai a sant, perquè en Catalunya no té tendència a fer sants, que va fer desantíssim. Vull dir que hi ha persones bones que no però crec que la influència de la treva de Déu és notabilíssima en aquest, diguem, reacció en contra de l'esclavatge, d'aquest nou esclavatge que produeix el populisme.
Oui, sí.
Brutal.
Brutal, sí. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les deux points. Bon, il y a le problème peut-être de l'influence d'un armement musulman sur l'armement catalan. Ça, je ne suis pas exactement compétent pour en juger. Alors, pour la trêve de Dieu, évidemment, c'est un problème absolument fondamental, et en particulier le problème des sacrées races qui ont servi véritablement de lieu d'asile à la paysannerie, qui sont construites, on en voit se créer partout. On en voit se créer partout, par conséquent, ça répondait bien à une nécessité. Et d'ailleurs, je crois que ça a eu une grande influence sur le plan de l'habitat. On parle beaucoup d'incastellamento. Hein. Moi, je demande, je cherche à trouver l'incastellamento en Catalogne. Je ne suis pas persuadé totalement que le phénomène d'incastellamento ait existé en Catalogne de manière aussi nette qu'il a existé en Latium. Par contre, avec la création des sagreres, qui sont de plus en plus construites, les paysans viennent construire leurs habitations. Je me demande s'il n'y a pas eu au contraire concentration de l'habitat autour des églises, dans l'espace sacré des églises. On construisait même dans les cimetières, puisqu'il y a un évêque, c'est Guy Labert de Barcelone, qui un beau jour se plaint en disant on a tellement construit dans les cimetières qu'on ne sait plus où enterrer les morts. Alors je pense qu'il y a eu ce regroupement de l'habitat essentiellement autour des églises, dans les enceintes sacrées des églises, et que le château, lui, il est resté tout seul, isolé sur son piton. Dans la plupart
des cas. Sí, no ho sé. Senzillament que aquí s'ha parlat, sobretot, o s'han dit dues paraules claus en tot el seu discurs, que ha sigut de lliure o no lliure. Llavors, la meva pregunta, a nivell de reflexió i per què està edat mitjana, és el plantejament d'on acaba la servitud i on comença la llibertat dins d'aquesta edat mitjana. No. Això suposo que és un plantejament
Oui, où commence la liberté, où finit la servitude. Vous savez, c'est un problème sur lequel réfléchissent les historiens du droit depuis qu'existe l'histoire du droit. Hein? Alors, ce n'est pas nous qui allons le trancher, je crois, aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que j'ai une définition de la liberté et de la servitude au Moyen-Âge qui est très simple. Est libre celui qu'on ne peut pas battre, qu'on ne peut pas fouetter, n'est pas libre, qu'est la liberté et la servitude. Sa liberté, si vous voulez, lors de cette époque, il a l'expérience par son dos. Hein. Son dos qui est fouetté ou qui n'est pas fouetté. Hein. Voilà.